L'évolution, l'évolution des espèces, est conservatrice. Et dans le cerveau des animaux, on trouve des formes très primitives. Il y a un premier cerveau que MacLean a appelé le cerveau reptilien. C'est celui des reptiles, en effet. Et qui déclenche les comportements de survie immédiate, sans quoi l'animal ne pourrait pas survivre. Boire, manger, qui lui permet de maintenir sa structure, et copuler, qui lui permet de se reproduire. Et puis, dès qu'on arrive aux mammifères, un second cerveau s'ajoute au premier, et d'habitude on dit, avec MacLean encore, que c'est le cerveau d'affectivité. Je préfère dire que c'est le cerveau de la mémoire. Sans mémoire, de ce qui est agréable, de ce qui est désagréable, il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé. Il n'est pas question d'être en colère ou d'être amoureux. Et on pourrait presque dire qu'un être vivant est une mémoire qui agit. Et puis, un troisième cerveau s'ajoute aux deux premiers, qu'on appelle le cortex cérébral. Chez l'homme, il a pris un développement considérable. On l'appelle un cortex associatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il associe. C'est-à-dire que il va pouvoir créer, réaliser un processus imaginaire. Dans le cerveau de l'homme, ces trois cerveaux superposés existent toujours. Nos pulsions sont toujours celles très primitives du cerveau reptilien.
Entreprise où je travaille, le patron. Vous savez où il donne ses rendez-vous maintenant? Dans l'ascenseur. C'est pas des blagues. Ce matin, je me trouvais là par hasard, je l'entendais téléphoner. Écoutez, je regarde mon carnet, j'ai plus rien de libre. Ah ben si, passez me voir dans l'ascenseur. Est-ce que 14h, ça vous va? Mais je pourrais vous voir seulement du rez-de-chaussée au troisième, parce qu'au troisième, j'ai M. Berlusconi, et je peux vraiment pas le reculer. C'est plus possible, hein? Ah, moi, je suis crevé, j'en ai marre, hein?
Guy Bedos.
Si je vous connais à travers le film de René,
oui,
qui a fait beaucoup pour votre notoriété.
Oui.
Et ça a été votre attaché de presse, en quelque sorte.
Oui.
Bon, puis j'ai lu certains de vos articles, etc. C'est vrai que je suis loin d'être incollable, parce que, au fond, nous sommes un peu comme ces animaux de laboratoire, nous sommes un peu dans nos couloirs tous.
Oui, okay.
Et j'arrive à un point de ma vie où je me révolte un peu contre ça. Je suis comme les autres. J'ai l'impression d'être un peu un cobaye social qui court derrière quoi, derrière tout ce qui fait courir les autres. Je cherche l'argent, je cherche à payer les traites de ma maison, je cherche à ce que ma famille soit la mieux possible, je cherche à progresser dans mon métier. Et tout ça, évidemment, absorbe une grande partie de mon énergie et de ma vie, tout simplement. Et ça m'enlève du temps pour, si je puis dire, pour les activités gratuites. C'est-à-dire la culture au sens simple du mot. Je veux voyager plus, je veux regarder plus les gens que j'aime, leur donner plus de temps, je veux écouter de la musique, je veux vivre
bien, mais
autrement.
Oui, mais vous avez quand même été motivé, comme j'ai pu l'être, par votre métier. C'est-à-dire
oui,
que vous avez eu une raison de vivre. Vous avez dit, mon métier, bien sûr, c'est ce qui vous permet de nourrir votre petite famille, etc. Bon, d'accord, c'est une chose, mais le faire avec un métier qui vous ennuie, le faire avec un métier qui vous plaît, c'est autre chose.
Je le fais aussi pour l'argent. Si je cours les routes comme je le fais, hein, si c'était pas payé, je le ferais pas. Franchement.
J'avais une mère qui se lavait les mains quand elle avait touché un billet de banque. Hein. Bon. Donc c'est ça aussi, je suis très lucide et consciente de mon apprentissage culturel. Et votre mère ?
Ma mère, elle se lave pas les mains après avoir touché de l'argent. C'est pas du tout la même que la vôtre. Mais enfin, nous avons des rapports que je qualifierais de normalisés.
Ah bon,
ces temps-ci. Nous avons décidé que nous étions vieux tous les deux.
Ah oui.
Et qu'il fallait faire la paix. Alors elle dit des choses qui me surprennent. Quelquefois, moi, je parle beaucoup moins qu'en scène. J'écoute plus que je ne parle dans la vie. Donc voilà.
Ah bah, voyez, voilà une différence. Moi, je parle beaucoup plus que je n'écoute, malheureusement. D'ailleurs,
je crois pas ça.
J'écoute pas, je lis.
Ça suffit pas de parler de sa mère comme j'ai fait toute la soirée. Je suis désolé, maman.
Mais que voulez-vous ? On ne se voit plus, alors il faut bien que je la fasse exister, cette vieille toquée. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 2 ans au téléphone. Ça, c'était la goutte d'eau. Je l'avais invitée pour l'anniversaire de mon fils, de son petit-fils, le premier anniversaire. Bon, je croyais lui faire plaisir. Elle était venue passer quelques jours avec nous en vacances quand il avait 3 mois, l'été d'avant. Et comme grand-mère, elle avait été pas mal. Pas mal. Elle avait fait tomber une ou deux fois sur le carrelage en essayant de m'endormir. Il s'était d'ailleurs très bien endormi. Enfin, fondue enchaînée, je l'invite pour l'anniversaire. Elle me répond tout de suite qu'elle ne viendra pas, je sais pas quoi, le coiffeur, le pédicure, enfin, une urgence. Et tout à coup, est-ce que je l'entends pas me demander... Au fait, ton gosse, je sais même plus, c'est un garçon ou une fille ?
Une bonne entrée en...
En matière. Moi, je vous connais quand même depuis très longtemps, si vous ne me connaissez pas, mais...
Si, je sais bien que vous n'êtes pas un homme d'affaires qui jouait en bourse.
Ah non, ça, alors là, on ne peut pas dire.
Voilà. Déjà, on sait à peu près à qui on parle.
À qui on parle. Non, mais aussi, je connais vos opinions sociopolitiques, si l'on veut, qui sont assez proches des miennes, si vous voulez. Moi, je suis un peu anarchiste, un peu plus...
Vous savez,
oui, vous aussi.
Je
ne
me crois pas, le contraire. Je suis un anarchiste qui traverse dans les clous. Parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec le maréchaussée.
Oui.
Mais enfin,
si je ne vois pas de flic, je ne traverse pas dans les clous.
Oui, mais moi je me méfie parce que je me dis qu'il y a toujours derrière un clou, il y a toujours un flic.
C'est des gros clous.
Mais en tout cas, je sais quand même, je ne suis pas totalement un hébété de village et sans être incollable sur votre œuvre, je sais à peu près ce que vous faites. Et j'y ai trouvé comme des signes de parenté. Bah, pardonnez-moi, c'est très outrecuidant.
Si je vous ai demandé, c'est bien parce que je pense qu'on est parents.
Oui, oui. Et notamment, quand vous dites qu'il y a, au fond, les deux choses importantes, c'est la vie et la mort.
Ah, oui.
Moi, je finis mon spectacle par une espèce de poème musical, comme ça, comédiante, tragédiante, tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs. Et c'est vrai que l'une des colères qu'un citoyen, doublé d'un artiste, peut avoir, c'est que devant l'inéluctable, la mort,
oui,
qui nous frôle tout le temps, on est touché presque constamment, enfin, ou alors c'est que j'ai pas de chance, mais moi j'ai des amis qui meurent ou qui sont malades, etc. Et ouais, on rit le soir et on pleure le jour, ou on est angoissé, tout du moins, souvent pour les autres, peut-être aussi pour soi-même.
C'est toujours pour soi-même.
Mais la colère, oui.
Parce qu'on est
oui,
que les autres, alors.
J'ai raison.
Le petit Chinois qui meurt dans son sampan, ça vous intéresse pas? Vous savez,
c'est
même
vrai,
pas qu'il meurt. Donc, pas.
On le sait par la télévision, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Comme en bourse, quoi, justement. Les actions tombent, quoi. Les actions
oui,
émotives
oui,
tombent de plus en plus par l'habitude.
Oui.
Mais je voulais dire que ma colère principale, finalement, et qui est le moteur de tout ce que je fais dans ma partie, pour parler
oui,
comme
un
homme qui travaille...
Non, oui, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle.
Quelquefois, il faut en avoir.
Tu en as, mon fils.
Comme dirait Hemingway.
Oui.
Mais ce que je continue à trouver révoltant, malgré l'âge qui vient, c'est que les hommes soient assez fous pour aimer la mort et accélérer le processus.
Vive à la mort.
Par leur mégalomanie, par leur cruauté, tout simplement, et souvent par leur imbécilité.
Je dirais pas imbécilité, je dirais inconscience.
Oui.
Leur inconscience, dans le sens presque psychanalytique du terme, le fait qu'ils ne sont pas conscients de ce qui les anime, ce qui les pousse, ce qu'ils ont engrammé, leur jugement de valeur, leur préjugés, tout ce qui les fait agir finalement, et toujours pour dans leur intérêt ou celui du groupe auquel ils appartiennent. Ils ne travaillent jamais pour l'humanité, ça c'est exceptionnel. Enfin, il y a le Christ et Socrate, hein, en dehors de ça. Oui. Tous les gens sont morts pour un sous-groupe.
Le professeur Schweitzer était suspect, paraît-il.
Ah, m'en parlez pas, celui-là.
Ah, excusez-moi.
Oula. M'en parlez surtout pas. C'était un bon organiste.
Oui.
Et malgré la...
Mais est-ce que vous pensez que c'est une fatalité? Est-ce que vous pensez que ces gens qui font un certain travail, là, c'est par boutade que j'ai prononcé le nom de Schweitzer, parce que c'est vrai qu'à une époque, en somme, la générosité, la charité vis-à-vis des autres, et notamment des peuples éloignés, ça passait par Schweitzer. Je me souviens d'une réplique d'une pièce d'Anouilh, où la fille craquait à un moment, disait, eh bien, puisque c'est comme ça, petite bourgeoise, très protégée, je vais rejoindre le docteur Schweitzer. Ça faisait rire la salle d'ailleurs.
Oui,
déjà.
Oui,
maintenant, mais est-ce que tous ces groupes, ces associations humanitaires, et notamment qui font du travail là-bas, dans ces pays bien malheureux, souvent, et malheureux de toutes parts, la nature, le régime politique, tout s'en mêle.
Mais je pense que leur discours logique, je pense qu'un homme comme Schweitzer devait être en fond de lui-même très conscient qu'il faisait quelque chose. De valable et d'intéressant pour les hommes, ses frères. Mais en réalité, je pense que nous en sommes tous là, c'est pas ou Schweitzer ou n'importe qui, on travaille pour nous. Et le terme d'égoïste ne veut rien dire, mais être heureux dans sa peau, c'est faire quelque chose qui vous convient, qui semble... Mais alors,
oui, ce que vous appelez le gratifiant, est-ce que... Dans ce cas, le résultat, et le résultat seul, n'est pas à prendre en compte. Et est-ce qu'on ne doit pas se dire, peu importe, si ce type s'est fait du bien en faisant, bravo quand même, non?
Oui,
est-ce que
ça
ne serait pas une
oui,
bonne
oui,
approche
mieux,
des choses?
Bon, bon, et bien sûr, je préfère choisir à Staline.
Je ne suis pas en train d'être l'avocat de choisir, mais je
non,
pense...
Non, non,
la...
moi non plus, mais puis on peut moi
aujourd'hui,
pas
par exemple, des associations comme Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, ils sont un peu disputés, tout ça, mais enfin bref, tout ça, tous ces gens-là, ces médecins, etc., bon, ils se baladent dans le monde entier. Effectivement, il doit y avoir des biens, des moins biens, des formidables, etc. Est-ce que, au fond, l'autre discours que j'entends quelquefois, qui consiste à dire « mais laissez-les donc tranquilles, après tout, c'est eux qui ont des choses à nous apprendre, les Africains sont très heureux comme ça, c'est une leçon pour nous », il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me disait ça. Et j'étais quand même très troublé, parce que je me disais « oui, mais il y en a qui crèvent quand même, ça ne nous a pas échappé ». Et on peut peut-être,
oui,
donc,
mais alors,
sans
là...
donner dans les dames d'œuvre, on peut faire quelque chose.
Oui, je pense.
Là,
oui, alors là,
je m'attendais pas
moi,
à parler de ça.
Non, mais
je vais
vous dire mon opinion le plus simplement, façon la plus courte possible. Je ferai un déplacement, si vous voulez. Les écologistes. J'ai fait partie de tous les groupes écologistes au moment où ils se sont constitués. Et finalement, ce qu'on pouvait dire, c'est que leur orientation était sympathique. Je ne dirais, ce serait un jugement de valeur ni bonne ni mauvaise. Ils essayaient de dire, attention, hein, on est en train de tuer l'espace dans lequel nous sommes, le faire disparaître, nous disparaîtrons avec eux. Et ces gens, ben alors, mais pourquoi? Il se trouve que ensuite, ils se sont battus les uns et les autres quand il s'est agi de passer à devenir député ou autre. Le but atteint n'était pas de protéger la biosphère. Le but atteint est de montrer que la façon et les moyens qu'on proposait étaient meilleurs que celui du petit copain d'à côté.
Oui,
et c'était une recherche de la dominance.
Oui.
Voyez, c'est ça qui est embêtant.
Mais vous pensez que c'est une fatalité? Et que les sentiments les plus fraternels, en somme, là je fais un peu chrétien de gauche, hein, en parlant comme ça, mais bon, qu'on peut avoir, aboutissent fatalement à cette lutte pour le pouvoir.
Quand on sait que c'est une lutte pour le pouvoir, à ce moment-là, oui, on peut éviter. Mais quand on ne le sait pas, on couvre d'un discours logique, extrêmement bien pensant, humaniste, etc., quelque chose qui est une recherche du pouvoir.
Donc, alors, au fond, la lucidité nous fait pardonner certaines choses, si on le sait.
Oui, je pense qu'il faut être critique, encore plus que vous l'êtes, et Dieu sait si vous l'êtes. faut aller jusqu'au bout de la critique, oui, de soi-même et des autres. Et...
Je m'applique pourtant, vous savez.
Ben oui, ça...
mais j'ai encore quelques restes de naïveté qui peuvent me faire faire des bêtises.
Il faut être naïf aussi. Je ne veux pas donner des règles. Je dis, il faut être comme si j'étais le bon Dieu qui dit, il faut être comme ça ou pas comme ça. Je pense, je préfère quelqu'un qui est naïf que quelqu'un qui est retors. Et Dieu sait s'il y a des retors. Mais il y a des retors qui sont inconscients d'être retors. Et il y a des naïfs qui sont inconscients d'être naïfs. C'est ça qui est embêtant.
Mais moi, je connais mes limites, justement. Et je sais qu'on peut me vendre du poisson pas frais par moment. Et si c'est bien vendu, bien impacté et en situation. Et puis après, quand je m'aperçois que je me suis fait avoir, évidemment, alors là, je déclenche ma batterie d'armurerie.
Ah non, moi, jamais. Je fous le camp, moi, je fuis. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la fuite » et j'aime vous dire que pratiquement toute ma vie, j'ai fui. J'aime pas la bagarre.
Puisque l'homme n'est pas capable d'un acte gratuit, même pas le suicidaire, puisque, être vivant, il doit s'habituer à vivre dans son égoïsme biologique, souhaitons qu'il ose au moins regarder en face la motivation sordide de ses actes.
Culture, le bon plaisir de Henri Laborie.
Un homme, il peut fuir. S'il est suffisamment astucieux et inventif, si on ne l'a pas complètement automatisé dans ses comportements, on est tous automatisés dans nos comportements. On vous a appris depuis la naissance à aller faire caca dans son pot, puis etc. Enfin, je prends c'est un peu trivial et caricatural, mais enfin, c'est ça. Tout ce que nous pensons ne sont que des jugements de valeur, qui sont valables non pas pour nous, mais pour la société dont nous dépendons. D'autre part, et ça c'est propre à l'homme, l'homme est capable d'imaginer. Il imagine des situations qui ne se produiront peut-être jamais, mais il les redoute, il en a peur. Il ne peut pas agir puisqu'ils ne sont pas encore là. Et dans tous ces cas, il est en inhibition de l'action. Alors il y a les fuites. C'est l'agressivité, d'une part. On s'étonne de l'agressivité et de la violence, mais si vous n'êtes pas en inhibition de l'action, vous n'êtes pas violent. Mais c'est aussi le suicide qui est une agressivité contre soi-même et contre laquelle personne ne vous dira rien s'il est réussi. Hein, ça, tranquille. Et c'est une fuite. C'est la toxicomanie. Comme dit Olive Einstein, il n'y a pas de toxicomanes qui soient heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont en inhibition de l'action. Et croyez-vous que c'est simplement parce qu'ils se piquent, qu'ils font plus de sida que les autres, que c'est une société à haut risque, un groupe à haut risque? Non, c'est parce qu'ils ont déjà, s'ils sont, pour être toxicomanes, il faut qu'ils soient en inhibition de l'action, donc ils ont déjà détruit leur système immunitaire. Et les homosexuels refoulés, hein, qui sont mal dans leur peau aussi. Ils sont en inhibition de l'action et ils ont détruit leur système immunitaire. Ils font déjà le boulot que fera le virus. Hein. Bon, la toxicomanie est une fuite, mais il y a aussi la soumission. Et la soumission, c'est toute la maladie psychosomatique. C'est l'ulcère d'estomac, c'est l'hypertension artérielle. Et puis, il y a la folie. La folie, la névrose, qui est une façon, comme on ne sait pas ce qu'on a à dire. Pierre Genet disait que c'était le langage du corps. On ne sait pas ce qu'on a à dire parce que c'est trop compliqué, qu'on ne vous a pas prévenu à temps. Alors, on sait bien qu'on n'est pas bien. On essaie par son comportement d'attirer l'attention de l'autre. On se trouve seul dans sa peau. Et Et puis, il y a la fuite, alors la bonne fuite.
Est-ce qu'on peut avoir le choix de nos réactions entre la lutte, la fuite, l'inhibition?
Ou bien quand on sait, oui.
Quand on sait?
Bah, bien sûr, personnellement, moi j'ai toujours fui. Je suis marginal dans mes finalités. Je ne suis pas jamais essayé d'entrer à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine ou tous ces trucs-là, je m'en contrefou, ça ne m'intéresse pas. Et donc j'ai une certaine autonomie du fait que je n'ai pas suivi les carottes qui m'étaient tendues. Et je pense que la seule autonomie qu'on puisse avoir, c'est justement la ne pas être lié aux récompenses, aux pseudo-récompenses que vous donnent vos contemporains quand vous répondez à leur conformisme. Et à ce moment-là, ça vous est permis de ne pas être conforme.
Mais en même temps, vous dites que notre comportement n'exprime que les mécanismes inconscients aboutissant à la recherche de la domination.
Ah, pas le mien. Ah bah sûrement pas. Pas le mien.
Vous êtes un cas d'espèce.
Bah, je partie que j'ai compris. Je ne cherche pas à dominer. Si, j'ai cherché à dominer quand je ne comprenais pas, c'est-à-dire j'ai passé des concours, mais je repasserai encore, d'ailleurs, non pas pour dominer, mais pour qu'on me foute la paix. Toute notre société est une société de compétition, dans n'importe quoi. Hein. Et ça, c'est les individus, mais c'est aussi les groupes sociaux, c'est aussi les États, les blocs d'États, tout ça, c'est de la compétition, et de la compétition marchande. On ne vous demande pas de trouver des choses extraordinaires, si. Trouver des choses extraordinaires si ça peut se transformer en marchandises et faciliter la production de marchandises. Alors, à partir du moment où votre motivation n'est pas de vous élever dans une échelle hiérarchique, vous ne cherchez pas la dominance. Elle me dit, ben vous êtes dominant. Je ne suis pas cherché à être dominant. Vous venez me trouver, je ne vais pas aller vous chercher, moi. Hein? Alors on dira, bah, vous avez un moyen, la radio, mais je n'ai pas cherché la radio et la télévision. Il se trouve que je publie des bouquins et un certain nombre de gens qui s'y intéressent. Et je ne cherche pas à les dominer, au contraire, j'essaie de savoir ce qu'ils en pensent. Hein, c'est toujours bon de savoir ce que pensent ses contemporains de ce qu'on fait. Mais j'aurais conduit ma vie autrement si j'avais pensé à devoir dominer. Et puis dominer dans quoi? Hein, je ne suis pas un emmerdeur parce que je refuse. Je suis simplement, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à rester dans mon labo, à travailler, à faire ce qui me plaisait, que de devenir médecin général. Donc la dominance, c'est pas ça. C'est justement quand vous cherchez la dominance que vous devenez un emmerdeur. Hein, moi, j'ai pas été emmerdeur. Ma vie, à chaque fois, je suis foutu le camp. À chaque fois que ça collait pas, j'étais ailleurs. Je me suis occupé de choses qui n'auraient pas dû m'occuper. J'étais chirurgien, je l'ai dit, j'étais chirurgien des hôpitaux, j'aurais pu continuer à faire ma coupable industrie, personne ne m'aurait reproché, j'avais les parchemins pour ça. Mais inventer des drogues nouvelles, Dieu sait si on en a trouvé, comprendre un certain nombre de mécanismes fondamentaux en physiologie, en biochimie, en biologie générale plutôt, et n'étant ni pharmacologue, ni professeur de pharmacologie, ni en même aucun diplôme de pharmacologie ou de physiologie, c'est pas permis. Hein, et il faut être certifié. Sans ça, c'est pas sérieux.
Vous avez l'impression d'être un savant méconnu?
Oh non. Non, mais un savant, qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? J'essaie de me faire plaisir et de me comprendre. Alors, je suis méconnu, mais pour moi-même, que les autres me méconnaissent, ça n'a pas de très gros intérêt. Hein. Ça... Non, c'est pas important. J'aurais été content d'avoir le Nobel il y a 20 ans, parce que j'avais tellement d'ennemis, tellement de types qui charognaient, que ça m'aurait fait plaisir de l'avoir à ce moment-là, rien pour leur dire merde. Actuellement, mon agressivité est passée, la vie m'a comblé, je suis heureux sur tous les plans. Hein. Alors, j'aurais pu être paranoïaque, c'est-à-dire la définition du paranoïaque, c'est l'agresseur agressé. C'est agresser les gens, puis se dire, j'aimerais qu'on en veut du mal, etc. Je sais, j'ai jamais dit qu'on me voulait du mal, moi je trouvais que les autres avaient raison, mais moi aussi j'avais raison, et que je voulais pas me soumettre aux leurs. Puis c'est tout. Et je pense que on peut éviter la paranoïa, est-ce rester même bon vivant, si j'ose dire, sans se soumettre. J'ai rarement été soumis, c'est vrai. Il faut se révolter, je l'ai dit souvent à des collaborateurs, pour leur apprendre la révolte, il faut se révolter jusqu'au point où ça va casser. Mais si on tient à quelque chose quand même, à ce moment-là, il faut faire un pas en arrière et un pas de côté. Et foutre le camp sur le truc qu'on ne vous attend pas du tout, ailleurs. Hein. Je pense que c'est ça, la fuite. La fuite, elle n'existe, elle n'est valable qu'à partir du moment où vous avez été au bout de la révolte.
Vous vous pensez donc que l'homme, vous entre autres, peut échapper aux automatismes culturels, peut échapper aux stéréotypes de la société, et peut rechercher autre chose que...
Il peut rechercher autre chose. Échapper, c'est difficile d'y échapper complètement. Mais dans tous les cas, c'est du déterminisme. Je ne suis pas libre de fuir. Et non, on est sur des rails dès la naissance, et on ne peut pas en sortir. Hein, tout ce que qu'on appelle une personnalité humaine est l'effet de tout ce que, depuis la naissance, et peut-être un peu avant, tout ce qu'il a pu engrammer, tout ce qu'il a pu mémoriser comme interdiction, comme apprentissage.
Tous les ans, le premier dimanche de septembre, nous ne manquions jamais la fête de Luma.
Dès l'âge de raison, j'ai pris l'habitude de communier tous les premiers vendredis du mois.
Mon père voulait que je devienne officier de marine. Il avait décidé ça le jour de ma naissance, en prévision de la prochaine guerre, pour m'éviter d'être fantassin. Il trouvait plus propre de mourir dans l'eau que dans la boue.
Puis papa m'a dit que c'était un réactionnaire. Alors je me suis mise à bûcher sérieusement.
Silence, mademoiselle.
Mon oncle Henri, le marchand de bestiaux, m'appelait l'intellectuel de la famille. Il s'amusait à me poser des cols, un peu pour me faire marcher. Ça allait de la couleur du cheval blanc d'Henri IV à la récitation des 10 commandements.
Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain.
Vous savez donc, nous avons ici le cerveau des pulsions. S'ajoute le cerveau de la mémoire, l'automatisme, et ici le cerveau de l'imagination, avec au-dessus là un petit carrefour qui sert pour l'attention. Alors, nous avions fait le schéma du réseau d'alerte qui inonde comme ça le cortex et qui ne permet qu'en réponse, qu'un seul comportement. Et quel est ce comportement? Quand on est agressé comme ça, je vous l'avais expliqué, c'est... Nous sommes au collège Missy, un collège de La Rochelle qui compte près de 740 élèves. Et depuis une vingtaine d'années, nous avons essayé de travailler en utilisant les idées de Laborie ou certains de ses résultats. Et chaque fois que nous en avons la possibilité, en début d'année, nous expliquons aux enfants à peu près le modèle de cerveau tel que Laborie nous l'a décrit, mais nous le faisons sans utiliser de mots de biologie, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'un cours de sciences naturelles, mais simplement d'une approche du fonctionnement du cerveau pour apprendre, pour étudier.
C'est vous, Claude Grenier, vous êtes enseignant en histoire et géographie, c'est vous qui avez introduit la pensée de Laborie dans ce collège.
Enfin, c'est un bien grand mot, mais le fait que je me sois intéressé à ces travaux depuis beaucoup d'années, le fait que j'ai rencontré Laborie personnellement il y a maintenant près de 30 ans, m'a permis en effet de l'inviter à plusieurs reprises, et donc nous avons partagé avec de nombreux collègues ses connaissances et ses intuitions.
Pourquoi ça vous semble important dans votre enseignement ?
Eh bien, parce que on demande aux enfants d'apprendre beaucoup de choses, de recueillir beaucoup d'informations, et que à tous les niveaux d'organisation qu'il a étudiés, Laborie a toujours fait un effort important pour préciser la nature du problème posé, pour voir comment s'organiser les connaissances, pour voir comment on pouvait faire un travail interdisciplinaire. Et par conséquent, l'idéal pour nous serait que plus tard, un jeune élève faisant de la recherche s'inspire des méthodes de travail de Laborie. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos élèves ont poursuivi dans cette voie sous son influence, après l'avoir rencontré, et s'efforcent aujourd'hui d'employer les méthodes qui ont fait leur preuve avec Laborie.
Salle 28.
Voilà, c'est ça, nous entrons dans ma classe. Je vous ai réunis aujourd'hui pour que nous essayions de retrouver ensemble un certain nombre des idées de Laborie que j'ai voulu vous enseigner il y a quelques années. Alors pour les quatrièmes, c'est il y a 3 ans, on a fait ça en sixième, pour ceux qui sont en seconde, c'est encore plus ancien. Et pour les élèves de CPA, classe préparatoire d'apprentissage, c'est au début de cette année. Et par conséquent, je vais essayer d'abord de vous demander, finalement, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a pu dire au sujet du cerveau, de son organisation, etc. Et est-ce que ça avait pour vous un certain intérêt ou une certaine utilité ?
On a appris qu'on avait différentes mémoires. On avait 3 mémoires. Une mémoire pour retenir les choses 5 minutes avant une interro, par exemple, enfin 5 minutes avant, mais après, tout, on oubliait tout, pratiquement. Une mémoire pour retenir environ une demi-heure avant, on relisait ce qu'on avait, et la mémoire où on retenait pour toujours, enfin presque, ce qu'on avait appris. Et, mais pour apprendre, on peut se redire plusieurs fois dans sa tête ce qu'on va apprendre. Donc, à peu près au bout de 7 fois, normalement, on le sait. Aussi pour... bon, ça, c'est pas pour apprendre, mais c'est quand on fait une dictée, par exemple. Au lieu de relire plusieurs fois en regardant tout, si on a fait des fautes, on relit au moins 4 fois. Alors, une fois pour les verbes, une fois pour les noms, une autre fois pour les adjectifs ou les participes passés qu'on doit accorder. Donc, si à chaque fois qu'on relit, on fait attention à une seule chose seulement, après, on est sûr de faire moins de fautes plutôt que de relire, d'essayer de voir tout en même temps.
Qui est au courant de ce procédé parmi vous ? Qui le connaît ?
Ben oui, je l'ai employé, ça marche.
Vraiment ?
Ouais.
Ouais, je pense que c'est pareil en mécanique, quand on démonte une chose une fois, il faut bien regarder ce qu'on fait et après ça revient automatiquement. La logique des choses.
Quand on travaille comme ça, on peut être complètement déconnecté par quelqu'un, par exemple, qui nous embête. Et alors le cerveau déconnecte. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire très bien attention à ce que se dit
d'ailleurs. Oui, ça commençait généralement, tant qu'ils m'en souviennent, par quelque chose sur le réseau d'alerte et le réseau d'attention.
Voilà, c'est ça.
Ah, ça éveille des souvenirs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de réseau d'alerte et réseau d'attention ?
Quand quelqu'un nous pinçait ou nous touchait et qu'on écoutait un cours, le réseau d'alerte empêchait le réseau d'attention. Enfin, il réagissait, on ne pouvait plus écouter ni retenir correctement ce qu'on entendait.
C'est beaucoup plus difficile, enfin plus facile de se déconcentrer que de se concentrer.
Oui. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire que j'ai racontée en rapprochant le modèle des 3 cerveaux de Laborie d'Ulysse qui écoutait les sirènes ? Vous vous souvenez de ça ?
Oui. C'était Ulysse qui entendait des sirènes, mais on lui avait dit déjà avant qu'il ne fallait surtout pas se faire attirer par les sirènes. Mais lui, il ne pouvait pas résister à la tentation.
C'était fait lier au mât par ses compagnons, qui eux-mêmes avaient par contre de la cire dans les oreilles. Oui. Donc lui, il entendait les sirènes, mais il ne pouvait pas, agir, quoi.
Et oui, et alors, pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire il y a 3 ans pour certains, il y a 4 ans pour d'autres, 5 ans même ? Ben, je vous ai raconté cette histoire parce que finalement, il y a une très grande ressemblance entre le modèle des 3 cerveaux que nous a donné Laborie et puis cette vieille histoire qui est dans l'Odyssée. Et la ressemblance est la suivante. Laborie nous a dit que nous avons un cerveau des pulsions qui sert pour la faim, la soif, la reproduction. On a un cerveau de la mémoire, de mémorisation, qui sert pour les automatismes, la table de multiplication, ne fais pas ci, ne fais pas là, ne touche pas une prise, tu vas t'électrocuter. Et puis on a un 3e cerveau que l'homme est seul à posséder, qui est le cerveau imaginant, le cerveau qui nous permet de créer. Et c'est ce cerveau qui nous permet, dans des situations nouvelles qu'on ne connaissait pas, d'inventer des solutions. Et dans l'Odyssée, ben c'est pareil. On avait dit à Ulysse, mais quand il était tout petit sans doute, il y a en Méditerranée des sirènes dont le chant est tellement mélodieux qu'on a envie de l'entendre. Ça, c'est les pulsions. Et puis, quand on écoute les sirènes, alors elles attirent le bateau vers des récifs et on fait naufrage. Et Ulysse connaissait tout ça et il a décidé, pour savoir ce qu'il y avait
comment était ce chant des sirènes. Il a inventé une solution qui a consisté à mettre de la cire dans les oreilles de ses marins, de ses rameurs, et lui se faire attacher au mât pour ne pas toucher le gouvernail. Et par conséquent, il a pu savoir, il a pu écouter le chant des sirènes et sans casser son bateau. Et alors, il y a une chose, par exemple, là que je vais poser. Tu as entendu tout à l'heure ce que disaient tes camarades sur la tension et le fait d'être sollicité à côté, etc. Bien sûr, pour vous, la situation est un peu particulière puisque vous travaillez une semaine à l'école et une semaine en garage puisque votre section s'appelle classe préparatoire à l'apprentissage. Est-ce que tous les trois, vous vous êtes aperçus que finalement, je vous sollicitais de manière un peu particulière? Est-ce que vous l'avez vu ça ou non, Mümmler?
Ouais.
Comment ça?
Parce qu'on n'a pas la même manière d'apprendre, nous, c'est surtout en dehors qu'on apprend.
Oui.
C'est qu'eux, ils apprennent ça en théorie, puis nous, on l'apprend pas en pratique, quoi. Oui.
Mais est-ce que dans la classe, là, quand nous sommes ensemble, ou quand nous sortons, quand nous allons quelque part, est-ce que tu as vu une façon particulière de procéder? Tu peux le dire en toute simplicité.
Bah oui, par exemple, on a fait une visite au musée des automates, puis on a vu le fonctionnement des cannes, des marionnettes, par exemple l'arlequin, comment il était fait, la découpe.
J'ai choisi les cannes comme ça, au hasard?
Ah non.
Pourquoi?
Bah, dans les voitures aussi, il y en a.
Ah, alors qu'est-ce qu'on a essayé d'établir, là, entre les voitures et l'automate, la marionnette qu'on a vu marcher, enfin le mécanisme.
Qu'est-ce c'est l'automate pareil, le fonctionnement est pareil.
Qu'est-ce qu'on prétend établir dans ce cas-là?
Une relation.
Voilà, une relation. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on cherche à établir une relation? De quoi? Quand nous avons parlé du cerveau imaginant, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le cerveau imaginant? Comment est-ce que l'homme invente? Il invente à partir de rien?
Il l'imagine.
Mais il imagine en faisant... Oui.
Et réunit les informations qu'on lui avait déjà, qui étaient déjà rentrées avant.
Ah, alors, il réunit les informations qu'il avait déjà dans sa tête. Mais alors, ces informations, il y a quand même deux questions. Premièrement, la quantité, et deuxièmement, la qualité de ces informations. Alors là-dessus, il faut y aller, il faut m'expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa tête.
Il faut essayer de se former des tableaux dans la tête pour ensuite pouvoir classer ses idées, savoir si ça sert ou si ça sert pas.
Alors il y a un nom, et là il y a un nom, j'ai envie de... Je vous allez le trouver, ça c'est pour me moquer un peu d'Henri Dabory, vous allez retrouver le titre d'un de ses livres à travers ça. Comment on peut appeler ce tableau? Un autre nom, un synonyme là? Une?
Structure.
Pas mal, c'est pas mal. Bon, mais ce sera pas structure. Structure, il connaît ce mot-là déjà, mais un autre mot encore. Une? Oui! Comment tu appelles ça?
Une grille.
Mais voilà! Et les grilles, alors il y a un bouquin de Dabory qui s'appelle La Nouvelle Grille. Mais pourquoi La Nouvelle Grille? Parce qu'il y en a eu d'autres. Par exemple, il y en a eu une avant, qui a servi beaucoup, qui est, je m'excuse du mot un peu savant, qu'on appelle la grille marxiste. Pour les plus grands, ça peut être clair, pour les plus petits, c'est difficile. Ça consiste à considérer que toute l'histoire de la planète est le résultat d'une lutte entre des classes sociales. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, celui qui a fondé cette grille s'appelait Marx, on appelle ça la grille marxiste. Et alors, Labori a proposé ce qu'il appelle une nouvelle grille, et c'est cette grille dont nous essayons de nous servir pour apprendre.
Non seulement il y a ces trois cerveaux, mais en plus, le cerveau humain, que vous appelez volontiers le cerveau imaginant, il y a un hémisphère droit et un hémisphère gauche.
Ah là, et comment? Et on sait que sur les droitiers qui sont les plus nombreux, c'est au niveau de l'hémisphère gauche que se trouvent les centres de Wernicke et de Broca, qui sont les centres du langage, par exemple, et que l'on parle avec son cerveau gauche. Et au contraire que... La musique, et la musique, non pas la théorie de la fugue et du contrepoint, mais la musique globale telle que on la voit de plus en plus appliquée depuis la musique noire. Ils n'ont pas besoin d'apprendre le solfège, ils font de la musique et ils associent correctement les sons sans être passés par l'analyse du son. Donc l'hémisphère droit est un hémisphère qu'on considère comme ayant une approche globale de l'environnement et synthétique. L'hémisphère gauche permet de parler, d'une part, ça permet les mathématiques, ça permet le discours logique. C'est important parce que je pense que le malheur de notre époque, est venue du fait que depuis quelques millénaires, on a favorisé et encouragé le fonctionnement du cerveau gauche. Pourquoi ? Parce que avec des mathématiques, avec des lois de la physique, on a construit de plus en plus de machines, de plus en plus de machines faisant beaucoup d'objets en peu de temps, et que toute l'économie est basée sur le fonctionnement du cerveau gauche, et qu'on est arrivé à une analyse telle qu'il faudrait maintenant faire fonctionner aussi le cerveau, l'hémisphère droit, parce qu'on est perdu dans le détail, et que c'est l'hémisphère droit qui peut refaire la synthèse de tout ça. Culturellement, le cerveau de la femme a été moins automatisé du côté hémisphère gauche que celui de l'homme, parce qu'elle était moins en compétition hiérarchique dans un système de production. C'est ce qui fait qu'elles sont plus intuitives, plus globalisantes en général. Elles sentent les choses sans avoir à les analyser. Et je pense que c'est leur force. Et ce qui serait agréable, justement, c'est qu'il y ait cette complémentarité entre le cerveau gauche de l'homme et le cerveau droit de la femme.
Est-ce qu'il y a un conflit entre les deux hémisphères ? Ou bien est-ce qu'on pourrait très bien les développer ?
Certains auteurs, chercheurs américains, prétendent que quelquefois ça même, c'est à l'origine de certaines psychoses. Bien sûr qu'entre les deux, il y a un corps calleux qui permettrait normalement, si on savait les utiliser correctement, ces deux hémisphères ensemble, de les faire fonctionner ensemble. Mais il semble que le fait que notre société ait développé cet hémisphère gauche fait une disharmonie entre le fonctionnement des deux hémisphères. Bon, il prétend que je suis surtout cerveau droit. Je veux bien, je suis bien forcé aussi d'être cerveau gauche. Qu'est-ce que c'est que l'amitié ? Je suis un foutu de vous dire ce que c'est. Mais effectivement, je me trouve mieux avec... Je suis plus à l'aise avec les femmes, avec une femme ou avec les femmes, parce que les hommes sont des concurrents. Or, dans Cuvier, c'est pas un concurrent, et moi, je ne suis pas un concurrent pour lui. C'est-à-dire qu'on n'entre pas en compétition. Alors à ce moment-là, je pense qu'on peut être... On peut être vraiment soi-même. Alors c'est peut-être ça qui fait qu'on est amis.
Claude Cuvier, physicien.
Vous connaissez la définition de deux barres parallèles. Elles ne se rejoignent jamais.
Mais c'est la même chose, on risque pas de se tamponner, on marche ensemble. Il y a un terme russe qui résume parfaitement notre histoire. Iskrabogia. C'est pas traduisible.
Ah bah non, alors.
On pourrait dire l'étincelle de Dieu. Lorsque deux personnes se rencontrent, une porte s'ouvre, vous rentrez, vous voyez quelqu'un, cette étincelle, c'est tout de suite ou jamais.
Vous croyez ça ?
Ah oui, et comment ?
La sympathie, c'est quoi ça ?
Oui, je le crois.
Bon.
C'est très difficile à définir sur le plan de la biologie du comportement, effectivement.
C'est ça ?
Si. On peut quand même essayer d'aller un peu plus loin. On peut dire que dans le visage d'un individu, il y a des choses qui ne s'expriment pas par le langage. Et qui font que ça peut correspondre à votre propre apprentissage, à ce que vous avez connu des autres. ce que vous avez apprécié ou ce que vous avez craint des autres. Et je pense qu'effectivement, comme il le dit, Toc, il y a des moments où on sait tout de suite qu'on se plaira avec tel être et pas avec tel autre.
L'amour est une affaire de psychologie.
Ah, moi, je crois que c'est une affaire d'odeur, l'amour.
Et d'intelligence, bien entendu.
D'odeur ça,
oui, je pense que les déodorants, c'est l'arme la plus catastrophique
contre l'amour.
Ça tue l'amour, oui. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle les phéromones. Ça existe chez l'homme comme chez le papillon. Donc, le parfum, oui, je pense que le parfum est important parce que le mélange d'une odeur d'un corps avec un parfum, ça peut donner quelque chose de très attrayant. Mais tuer le parfum, c'est tuer l'amour. Enfin, ce qu'on appelle l'amour entre les sexes, admettons.
Et l'amitié, c'est pas une affaire d'odeur, l'amitié.
Ah non. D'abord, quand il dit on voit quelqu'un, etc., on l'a pas encore senti. Ça, à moins que les phéromones se baladent de très loin. Non. Non, je pense pas que ce soit une question d'odeur. L'amitié, c'est plus une question de comportement. Et effectivement, il y a des gens avec lesquels on entre en amitié et avec lesquels on a plaisir à être, et qui par la suite, ça m'est arrivé souvent, pas souvent, mais enfin quelques fois, vous font les tours les plus pendables, je veux dire, à la limite de la malhonnêteté, mais vous êtes toujours bien avec eux, et vous ressentez le même plaisir à vous trouver avec eux, même sachant qu'ils vous ont joué tel tour de salaud, etc. Tu vois à qui je pense.
Dans une amitié, pas d'agression. Au risque du coût, du geste, il vaut mieux payer et ne pas être agressé, surtout ne pas agresser. Moyennant quoi, une amitié tient très bien. Il faut savoir abandonner ce qui pourrait être nuageux.
Et vous ne pensez pas que c'est sain par moment aussi de s'agresser?
Non, non. Non, je connais bien Henri, non. Il a vraiment pas besoin d'être agressé, vraiment pas besoin. C'est du temps perdu, et pour lui, et pour les gens qui font ça. C'est pas sérieux.
J'ai appris à fuir.
Il faut vraiment relire à la loupe l'inhibition de l'action, l'éloge de la fuite, qu'il faut relire des deux côtés, à l'endroit et à l'envers, pour comprendre parfaitement la démarche d'Henri, qui est précise. Dans la mesure où vous avez l'intention de l'aider, pas de taper dessus, bon, alors vous l'aidez, et à ce moment-là, il va de l'avant. J'ai souvent vu Henri avec des idées, mais absolument géniales. Être gêné par des gens, je pense au colonel, quel plaît. Oui. Nous tairons son nom. Mon cher Laborie, soyez prudent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, soyez prudent? Vous avez une idée, bon alors. Mettez-la sur pied, défendez-la. Si elle est solide, ben on verra.
Quand vous dites idée géniale, vous pensez à quoi en particulier?
Oh, j'ai vu faire à Henri des choses fortes.